Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 18h, vous nous suivez sur Nostalgie FM depuis Kaye, fidèles auditeurs de Studio Tamani. Bonsoir et bienvenue aux informations, les titres. La décision de la HAC relative au retrait de la licence de Joliba TV News est en vigueur. La chaîne de télévision privée n'émet plus depuis ce mardi matin. Néanmoins, des discussions sont en cours pour apaiser la tension. L'eau potable, une denrée rare, un euro du Sahel. Les autorités locales conscientes du problème disent être à pied d'œuvre pour soulager les consommateurs. Depuis la dissolution de l'AEM il y a presque 9 mois, comment les réclamations des élèves et étudiants du Mali sont-elles prises en compte? Les précisions dans notre dossier de la semaine. Voilà pour le sommaire, les détails à suivre. Ce journal vous est présenté par Lala Diarra Touré. Philippe Dambélé assure la partie technique. La chaîne privée Joliba TV News a cessé d'émettre depuis ce mardi 26 novembre. La haute autorité de la communication, HAC, a décidé la semaine dernière de fermer le média à cause des propos d'Issaka Oudjim, jugés désobligeants envers les autorités burkinabè. Hier lundi, une commission de médiation mise en place par la Maison de la Presse a rencontré la HAC pour lui demander de revenir sur sa décision. La HAC a de son côté salué la démarche et a assuré qu'elle va examiner la demande selon la Maison de la Presse. En attendant, notre reporter Maman Bobakunta a fait un tour ce matin à Joliba TV News, suivant son reportage.
Assis, tête baissée, mine serrée, voilà l'image des journalistes rencontrés ce mardi matin dans les locaux de la chaîne de télévision privée Joliba TV News. Dans cette atmosphère quelque peu lourde, des confrères sont entre colère et tristesse. Toutefois, certains, à l'image du reporter Omar Kouita, se montrent toujours confiants.
Je me sens désespéré parce que je pense en réalité que cette décision est un peu extrême, mais je crois aussi à la justice.
Du côté des responsables de la chaîne, c'est l'incertitude, même s'ils se montrent aussi optimistes. Ils demandent à la haute autorité de la communication de revenir sur sa décision. Kouassi Hounsa est le directeur délégué de Joliba TV News.
Nous vivons dans l'incertitude. Hein. Nous prenons le dialogue. Nous sommes conscients et nous sommes positifs que ça va s'arranger. Si ça ne s'arrange pas, ça veut dire que tout le monde part en chômage. Il y a certains, quand tu vois, même ils ont envie de pleurer, mais on dit non, c'est bon, ça va aller.
Joliba TV News va-t-elle reprendre ses émissions? Les heures et les jours à venir, difficile d'y répondre pour l'instant. La commission des médiations de la Maison de la Presse se montre confiante après sa rencontre avec les responsables de la HAC. Il faut noter que la chaîne emploie plus de 40 journalistes et animateurs.
Reportage signé Maman Bobakunta. Chers auditeurs, vous pouvez réagir à ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X, anciennement Twitter. Je vous le disais au sommaire, problème d'accès à l'eau potable à Nioro du Sahel, une situation dénoncée par les populations locales. Les autorités du cercle rassurent et disent prendre l'affaire à bras le corps pour trouver une solution dans les plus brefs délais. De Nioro, retrouvons notre envoyé spécial Idrissa Sako.
L'un des défis majeurs du cercle de Nioro réside dans la fourniture d'eau potable. Selon le préfet du cercle, Lamine Kouyaté, jusque-là, les différentes tentatives entreprises par différents acteurs avec l'appui des plus hautes autorités pour résoudre ce problème n'ont pas porté fruit.
Bien qu'il y ait eu des forages un peu partout, malheureusement, les résultats escomptés n'ont pas été à hauteur des attentes.
Ce problème préoccupe les habitants, notamment les femmes. Elles espèrent que tout sera mis en œuvre dans un bref délai pour l'accès à l'eau potable, gage du bien-être.
Vraiment, le problème d'eau est une triste réalité à Nioro. Les autorités sont au courant. Non seulement l'eau n'a pas de goût, mais aussi, on n'en trouve même pas.
Pendant la chaleur, on ne sait pas à quel sein se vouer. C'est dur. Il faut une solution urgente au problème d'eau à Nioro. Nous sommes vraiment fatigués ici, surtout au mois de mars et avril.
En tout cas, le bout du tunnel est encore loin, puisque selon le préfet, le manque d'eau complique même les tâches domestiques les plus simples.
Nous sommes pratiquement juste à la fin de l'hivernage et sous peu, les mêmes calvaires, sinon les mêmes difficultés vont commencer avec la population.
Pour toutes ces raisons, la question d'eau à Nioro doit figurer parmi les priorités. De Nioro du Sahel, Idrissa Sako pour Studio Tamani.
Eh bien, des Nord du Sahel, nous partons à Yuwaru, où la Journée internationale des droits des enfants a été célébrée le 23 novembre dernier. La célébration de cette journée, couplée à la Journée des célébrités, s'est déroulée dans les locaux de la préfecture et de la mairie de Yuwaru. L'événement a réuni des élus locaux, des responsables des services techniques, des ONG, la jeunesse, le Parlement des enfants et la société civile. Le compte-rendu de notre correspondant à Yuwaru, Bamou Ikebe.
À Yuwaru, les droits des enfants sont respectés, a déclaré Gabdou Bokoum, présidente du Parlement des enfants de Dissarc.
Ici à Yuwaru, on peut dire que les droits des enfants sont respectés parce que les enfants sont bien nourris, bien éduqués.
Pour maintenir cet élan de protection des enfants, une synergie d'action a été mise en place pour les sensibiliser sur leurs droits, a affirmé le chef service local de la promotion des femmes, de l'enfant et de la famille. Cette action se base sur la protection des intérêts des enfants, explique Aissata Koulibaly, chargée de la protection des droits des enfants et l'autonomisation des femmes à l'IRC.
Donc il y en a 4 principes. Comme premier principe, il y a la participation de l'enfant. Voilà, la survie et le développement. Il y a l'intérêt supérieur de l'enfant. Il y a également la non-discrimination. Voilà, ce sont les 4 principes de base.
Depuis Yuwaru, Bamoydi Mohamedou Kébé pour Studio Tamani.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, Eurtel, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Nous en venons au dossier de la semaine. L'association des élèves et étudiants du Mali, AEM, a été dissoute le mercredi 13 mars 2024 par les autorités de la transition. Cette organisation, qui était censée défendre les droits des apprenants, avait, selon certains observateurs, cessé de jouer ce rôle depuis fort longtemps. Les ANR, Assises nationales pour la refondation, avaient recommandé la dissolution de l'organisation estudiantine. Quelques mois après cette décision, quelles sont les alternatives pour porter la voix des élèves étudiants du Mali? Des acteurs de l'école se sont prononcés dans ces dossiers signés Mamadou Samasekou.
Au lycée Monseigneur 1 de Sikasso, l'administration estime que le vide laissé par l'AEM a été vite comblé. Elle a mis en place un collectif de responsables de chaque classe pour la bonne marche des affaires de l'école. Aliou Goudjenkli est le proviseur de ce lycée.
Depuis 2 ans, il n'y a pas d'AEM. Mais nous avons les responsables de classe. On les regroupe en conseil de classe, constitué de tous les responsables dans toutes les classes. La surveillance est en contact direct avec eux et on se réunit souvent. Dès qu'il y a des difficultés à leur niveau, les responsables de classe sont des porte-parole.
Les lycéens de cet établissement de Sikasso confirme l'existence du collectif en question. Il dénonce en revanche son inefficacité à résoudre à temps les soucis des élèves.
Sans la présence de l'AEM, c'est vraiment difficile. Vraiment, on n'a aucun moyen de gérer. Soit par classe, on envoie nos respons, ou bien on essaie de s'approcher du maître.
Nous nous adressons aux responsables de la classe. C'est à eux qu'on transmet nos messages pour que l'administration ait nos messages aussi. C'est à la reprise que ces problèmes sont généralement gênés.
Même cas de figure dans des universités de Bamako, affirme des étudiants. Un des membres du collectif mis en place dans la faculté d'histoire et géographie donne des explications par rapport à une situation donnée.
Actuellement, chez nous à la faculté d'histoire et géographie, il y a un problème de salle. La géographie prenait cours au palais de la culture, donc le contrat n'est plus valable. Maintenant, il y a un problème de salle. Géographie, c'est plus de 6000 étudiants. Quand il y a examen, il y a combat pour la chaise. On a exposé ça à l'administration, mais c'est sans suite.
La Fédération nationale des associations de parents d'élèves se réjouit de la dissolution de l'AEM. Elle n'est également pas du tout contre son remplacement par une autre organisation qui sera exclusivement dédiée à sa mission de défense des intérêts des élèves étudiants du Mali.
C'est souhaitable que les élèves aient une association de représentation quand même, mais vraiment dans les normes bien déterminées qui favorisent les études, qui favorisent la tranquillité, qui favorisent vraiment le bien-être au niveau du monde scolaire et universitaire.
Cependant, des pédagogues estiment que les élèves étudiants du Mali peuvent bien se passer d'une telle association. C'est du loi enseignant-chercheur à l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako.
L'AEM était devenu un instrument de blocage même des institutions scolaires. Les élèves et étudiants étaient les premières victimes de cette forme que l'AEM avait prise. Donc sans cette forme de l'AEM, je pense que les universités ou l'école malienne en général va s'en sortir. Les droits des étudiants sont déjà connus par l'État, par le CNU. La seule chose à faire, c'est que l'État prenne ses responsabilités.
Des responsables de faculté n'ont pas souhaité se prononcer sur la question. Rappelons que cette décision avait été prise suite à un affrontement le 28 février 2024 entre étudiants. Un incident qui a coûté la vie à l'un d'entre eux.
18h09, prenons à présent le chemin des stades sport-football. Les compétitions africaines de la CAF édition 2024-2025 ont débuté cette semaine. Deux représentants maliens sont en lice pour ce défi. Il s'agit du Djoliba AC en Ligue des Champions, une première pour une équipe malienne à cette phase, et les stades maliens en Coupe de la Confédération. Selon les chroniqueurs sportifs, si les stades maliens sont dans une poule favorable, les Djoliba AC est dans un groupe plus compliqué avec des adversaires redoutables. Ils estiment que pour aller loin dans ces compétitions, les équipes maliennes doivent notamment gagner leur premier match. Écoutons l'analyse de Yacouba Tangara, chroniqueur sportif au micro de Ousmane Nialibouli.
Pour les Djoliba, je pense que oui, ils ont une chance, mais c'est quand même compliqué. Ils sont dans un groupe très, très relevé. Hein, parce que quand tu vois déjà le premier match face à l'Espérance de Tunis, il y a 4 trophées de Ligue des Champions, donc les Djoliba doivent commencer face à cette équipe. Toutefois, les Djoliba aussi vont se baser sur l'influence parce qu'ils ont fait des renforts. Les autres équipes, il faudrait prendre match par match et se mettre un schéma en place pour que chaque match, vraiment, vous puissiez faire un bon résultat. Les Stade Malien est déjà en terrain connu parce qu'ils ont déjà gagné les trophées de la Coupe CAF en 2009, donc ça veut dire quoi les attendre globalement lors des différentes rencontres retour, mais il faudrait gagner les 3 matchs à Bamako, ça passe forcément par ce match contre l'équipe sud-africaine de Stellenbosch FC.
Faites-nous parvenir vos plaintes, avis, commentaires ou recommandations en nous appelant au 76 98 56 56. À Studio Tamani, nous attachons une grande importance à vos messages et nous nous engageons à les traiter avec diligence. Nous recevons à présent Imirana Kilumaiga pour l'introduction du Grand Dialogue. Imirana, bonsoir. Qui sont vos invités et de quoi allez-vous parler ce soir?
Bonsoir Lala, ce soir nous allons évoquer les 16 jours d'activisme. Les violences basées sur les genres ont la peau dure au Mali. Et c'est avec Diko Amina Diko, présidente de Solidaris 223, Mamadou Sidibé, porte-parole de l'initiative Zéro Violence, et Madame Traoré, victime de violences basées sur les genres.
Et c'est ce qui met un terme à ce journal. Vous pouvez les réécouter gratuitement et les magazines qui va suivre en appelant les services qu'on a fournis au 37-321. C'est gratuit, vous devez seulement avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. Merci d'avoir prêté oreille attentive. Bonne soirée à tous. La campagne internationale des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre a débuté hier lundi 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Elle se poursuivra jusqu'au 10 décembre. Son objectif est de sensibiliser afin de mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Au Mali, ces violences persistent et ont considérablement augmenté ces derniers temps, selon la coordination des associations et ONG féminines du Mali, CAFO, une situation qu'elle impute à la crise sécuritaire. Dans ce magazine Toutes les femmes, nous faisons l'état des lieux des violences basées sur le genre au Mali. Il est réalisé et présenté par Oumar Ouigalo.
Je suis victime d'un manque de respect, tout comme mes enfants. Des fois, ils m'insultent. Souvent, ils me disent des paroles blessantes que je n'aime pas. J'ai expliqué la situation à son grand frère. Les choses s'empirent. Si je pleure, il me met dehors.
Ces témoignages touchants et celui d'une victime des violences conjugales qui a gardé l'anonymat. Des violences qu'elle a longtemps subies dans son foyer. Tout comme elle, beaucoup de femmes subissent des violences conjugales. Selon la CAFO, coordination des associations ONG féminines, environ 45% des femmes au Mali ont subi des violences physiques ou sexuelles au moins une fois dans leur vie. Ces violences ont augmenté cette dernière décennie à cause de la crise sécuritaire, souligne la présidente de la CAFO, Madame Kouyaté Gundo Sissoko.
Les violences basées sur le genre sont exacerbées de nos jours à cause des conflits armés, le terrorisme et les inégalités socio-culturelles, entraînant des violences domestiques, les viols, les agressions sexuelles et l'exploitation économique des femmes.
Les femmes et les filles victimes des VBG sont de plus en plus nombreuses dans le centre et le nord du pays. Des centaines de cas sont recensés chaque année, soutient la présidente Kouyaté Gundo Sissoko.
Dans ces endroits-là, les services de prise en charge font état de centaines de cas recensés chaque année. Malgré ce recensement, beaucoup restent non signalés. à cause de la stigmatisation et également à cause des pressions sociales.
Ces femmes qui subissent les violences physiques, morales et psychologiques sont généralement prises en charge par des organisations de défense des droits des femmes. C'est le cas de Solidaris 223, une association humanitaire. Chaque année, elle assiste des femmes et des jeunes filles victimes de violences. Sa présidente Diko Aminata Diko nous explique les différents soutiens apportés aux victimes par son association.
La prise en charge judiciaire, médicale, juridique et puis psychologique. En dehors de ça, nous faisons aussi la réinsertion, c'est-à-dire que nous accompagnons ces femmes très souvent à travers un financement qui leur permettra d'avoir une AGR, une activité génératrice de revenus.
Au Mali, les associations féminines réclament une loi spécifique contre les violences basées sur les genres afin de lutter efficacement contre les phénomènes. Les pays viennent d'adopter des nouveaux codes pénals et des procédures pénales. Ces nouvelles réformes prennent-elles en compte la question des VBZ? Mariam Djama Sanogo, Ziris, est optimiste quant à l'adoption des mesures de répression contre les phénomènes. Elle affirme qu'un avant-projet de loi est déjà élaboré.
La partie répressive, c'est trouve au beau milieu de l'avant-projet de loi. Les deux codes ont été adoptés à la suite de tous ces processus. Les deux codes n'ont pas encore été promulgués, ça il faut les signaler. On ne peut pas se prononcer sur les avancées. Et à la suite de cela, on verra s'il y a d'autres actions, s'il y a des insuffisances en matière de prise en compte de la problématique des questions de violence basées sur les genres.
Les organisations féminines souhaitent l'aboutissement de cet avant-projet de loi pour diminuer les cas de violences basées sur les genres.